Il est 17h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous, il cherche des compromis sur la question du budget. Sébastien Lecornu tend la main au Parti Socialiste pour éviter la censure. Le Premier ministre promet de généraliser les repas universitaires à 1 euro. Alors que les tractations se poursuivent, le gouvernement pourrait utiliser le 49-3 ou avoir recours à une ordonnance pour faire passer le budget sans vote. Sébastien Lecornu prendra la parole en fin de journée pour dévoiler sa stratégie. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie au cœur d'une réunion à l'Élysée aujourd'hui, 6 mois après le document négocié à Bougival, rejeté par les indépendantistes du FLNKS. Le texte envisage une nouvelle organisation politique, la création d'un État de Nouvelle-Calédonie au sein de la République, ainsi qu'une nationalité calédonienne. Le FLNKS dénonce un accord indigeste. L'affaire date de 1986. Le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti est prescrit. Décision de la Cour de cassation qui ferme de facto les poursuites contre Yves Chatin, qui avait avoué en 2022 avoir étranglé la jeune femme avant de cacher son corps. Il était le voisin de la victime en Isère. La décision de la Cour de cassation de prescrire l'affaire fera jurisprudence dans des cas similaires. 200 000 francs suisses, c'est la somme demandée par la justice suisse pour libérer sous caution Jacques Moretti, le patron du bar Le Constellation à Crans-Montana, théâtre de l'incendie du Nouvel An. Le ministère public souhaite également la saisie de ses documents d'identité, la pose d'un bracelet électronique et une obligation de pointer tous les 3 jours au commissariat. Le gérant a été placé en détention provisoire la semaine dernière en raison d'un risque de fuite. Julio Iglesias dénonce des accusations absolument fausses. Deux jeunes femmes qui travaillaient auprès du chanteur espagnol de 82 ans ont déposé une plainte pour agression sexuelle. Elle dénonce également des conditions de travail abusives. Julio Iglesias assure n'avoir jamais abusé ou manqué de respect à quelque femme que ce soit. Et puis en biathlon, Lou Jean Monod poursuit son rythme à Ruhpolding. La Française prend la 2e place du sprint femme. Elle reste leader du classement général de la Coupe du Monde. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, place au dossier du jour, avec vous François-Xavier de Calonne. Alors que le gouvernement propose une série de mesures pour les médecins en grève en France, gros plan sur les médecins diplômés hors de l'Union Européenne. Plusieurs milliers d'entre eux travaillent dans les hôpitaux français. Un concours fruit d'une réforme permet de les régulariser chaque année, mais les modalités et le nombre de places limitées sont critiquées. Notre invité a fondé le syndicat des praticiens à diplôme hors Union Européenne. Il est maintenant médecin libéral. Le docteur Médis Mathy revient sur les différences fondamentales entre les médecins qui ont eu leur diplôme au sein de l'Union Européenne et les autres, des différences notamment en matière de rémunération.
Pour ceux qui ont eu le diplôme au sein de l'Union Européenne, c'est très simple. À la fin du cursus, ils ont une inscription directe au niveau du CNOM, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, et une plénitude d'exercice directe. Par contre, ceux qui ont eu le diplôme hors Union européenne, ils doivent déjà travailler dans un territoire français, ils doivent déjà avoir des DU, des diplômes, ils doivent déjà valider les EVC, les preuves qui sont très très contraignantes avec très peu de place.
Alors et on va éviter les acronymes, hein. Quand vous parlez de DU, d'EVC, est-ce que vous pouvez employer l'ensemble des mots? Merci beaucoup.
Ils doivent avoir des diplômes européens, ils doivent passer les EVC, c'est-à-dire les épreuves de vérification des connaissances, et ils doivent aussi travailler au minimum 3 à 4 ans au niveau des hôpitaux français. À la fin de ce parcours, qu'on nous appelle un parcours du combattant, et que tout le monde l'a fait, hein, il y a le grand obstacle qui arrive, c'est la validation. C'est-à-dire, vous regroupez toutes les pièces justificatives du dossier du médecin à diplôme étranger, il doit l'envoyer à une commission. Mais le souci entre les délais d'envoi de ce dossier à la commission et l'ouverture réelle du dossier et l'étude du dossier, il y a des fois 2 ans qui s'écoulent et que le médecin, il est en train d'attendre dans l'attente, dans le flou absolu, dans l'obscurité totale. Il ne sait même pas est-ce que son dossier est arrivé, il n'est pas arrivé, est-ce qu'il va être étudié ou pas. On appelle toujours à une facilitation de ces mesures contraignantes, c'est de l'administrative purement, et on va dire, c'est la bureaucratie. Mais malheureusement, on a toujours la sourde oreille. Le ministre d'avant, il nous dit il faut valider les diplômes, il faut une commission qui valide. Nous, on n'est pas contre cette commission, mais on demande une clarté des délais qu'ils doivent respecter, parce que ces gens-là qui travaillent, qui attendent cette plénitude d'exercice, ils ont des familles, ils ont des carrières à faire, ils ont des enfants à nourrir, et c'est pas possible de bloquer quelqu'un pour 3 ans dans la même précarité, avec le même salaire, avec aucune perspective d'évolution, sous prétexte que j'ai pas ouvert le dossier ou on n'a pas pu se réunir entre tous les coordinateurs d'une spécialité. C'est pas possible. C'est en l'an 2025, on a tous les moyens de communication nécessaires. On ne peut pas dire à quelqu'un, bah écoutez, on a pas, pendant deux ans, on n'a pas pu se réunir pour étudier votre dossier. C'est quand même aberrant.
Et justement, en 2026, quelles sont les différences de rémunération? Ça, c'est un élément très important.
Bah, les différences de rémunération, elles sont importantes. Si vous prenez un PADU qui a fait 5 ans, de PADU, c'est-à-dire comme praticien attaché, au bout de 5 ans, son salaire ne change pas, il reste aux alentours de 2000 parce qu'il ne peut pas évoluer, il n'y a pas d'échelon. Avant, il y avait au moins des échelons, maintenant, ils ont enlevé l'histoire des échelons. Dans le statut maintenant attribué à des médecins étrangers, il y a deux échelons, échelon 1, échelon 2. Avant, il y avait 12 échelons, ils ont abrogé l'ancien statut. Donc, ils ont créé un nouveau statut qui s'appelle praticien associé, où il y a deux échelons. Vous commencez à 2000 et le deuxième échelon, vous êtes à 2002 environ. C'était l'idée pour rester que le PADU fasse que 2 ans. Mais malheureusement, avec les délais très très longs pour régulariser ses confrères, bah, ils peuvent rester 5 ans, 6 ans, 7 ans à 2200. Alors s'ils avaient la plénitude d'exercice et ils passent le concours de praticien hospitalier comme les confrères, bah, ils sont déjà à échelon 7, à un salaire qui avoisine les 5500. Donc vous pouvez juste par une bureaucratie, vous pouvez doubler votre salaire.
Le docteur Médis Mati, fondateur du syndicat des praticiens à diplôme hors Union européenne, aujourd'hui médecin libéral, il est l'invité de Grand Angle, juste après le flash de 18h. C'était votre dossier du jour. Place au sport à présent, avec vous, Mounir Kamouri, bonjour.
Bonjour François-Xavier.
Trois lettres qui font vibrer les amateurs du ballon rond, CAN, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la finale dimanche soir entre le Maroc et le Sénégal, et cette CAN a été marquée par l'élimination du Gabon et surtout la suspension de la fédération et l'écart de joueurs comme Aubameyang. Mais il y aurait une évolution à venir, Mounir.
Et oui, et c'est un vrai rebondissement institutionnel. Après avoir suspendu la fédération gabonaise de football et écarté plusieurs cadres de l'équipe nationale, le gouvernement gabonais a finalement fait marche arrière. Les autorités ont levé une partie des sanctions permettant aux joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang de retrouver pleinement la sélection nationale et surtout de préparer l'avenir avec un peu plus de sérénité. Cette affaire révèle surtout les tensions récurrentes entre le pouvoir politique et le football dans plusieurs pays africains, ingérence, conflits de gouvernance et lutte d'influence autour des fédérations. Ce dossier rappelle que le football africain ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux et les sphères politiques.
Il peut aussi y avoir de belles histoires. Nous allons nous intéresser à un joueur, Mamadou Sarr, avec une possible jolie revanche familiale. Expliquez-nous, Mounir.
Oui, Mamadou Sarr n'est pas seulement un talent de 20 ans qui a brillé ce mercredi en demi-finale en remplaçant Kalidou Koulibaly avec sang-froid et maturité. Il est aussi le fils de Pape Sarr, ancien international sénégalais, qui avait été expulsé en demi-finale de la CAN il y a 24 ans et avait manqué la finale perdue face au Cameroun. Ce dimanche, Mamadou aura donc l'occasion d'écrire une page que son père n'a pas pu terminer, jouer une finale et peut-être offrir au Sénégal un deuxième titre continental. Au-delà du sport, c'est une belle histoire de transmission, de revanche familiale et de continuité entre deux générations des Lions de la Teranga.
Et on imagine bien entendu l'émotion de son père. Merci beaucoup Mounir Kamouri. Nous vous retrouvons ce soir 18h20 dans Sport sans frontières. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.